Guider par la pédagogie du Christ un chemin pour devenir chrétien. Voici la seconde partie de l'intervention du père Pierre Deberger, recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Intervention enregistrée le 27 octobre 2006 à Ustaritz lors de la session de rentrée des catéchistes.
Le troisième point, l'enseignement de Jésus s'accompagne d'une manière de vivre. Voilà. D'une manière de vivre. Qui prend le contre-pied de ceux qui disent et ne font pas. On sent bien que là, il y a chez Jésus une critique terrible, 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 de ceux qui disent, mais qui ne font pas, de ceux qu'il appelle un peu les hypocrites, de ceux qui chargent de fardeaux ceux et celles qui leur sont confiés, mais qui ne porte pas ses fardeaux, même pas hein, du bout du doigt, dit-il. Donc, ce que Jésus souligne ici, c'est le lien fondamental qui existe entre la foi que l'on annonce et l'agir, et la manière dont, personnellement, individuellement, communautairement, voilà, on manifeste ce que l'on annonce. Donc on pourrait évoquer ici toutes les notions de cohérence, de crédibilité. Et c'est sans doute ce que l'on entend lorsque l'on entend Jésus répondre justement aux disciples qui disent « Mais es-tu ?» Il répond en disant « Venez et vous verrez. » Venez et vous verrez. C'est dans sa manière d'être, c'est dans sa manière de vivre, c'est dans sa manière d'accueillir, mais c'est sans doute aussi dans sa manière aussi de dire les exigences de l'Évangile et de les vivre, que Jésus manifeste le bien fondé de ce qu'il enseigne. Donc, une manière de vivre. Une manière de vivre qui nous renvoie à ce qui est au cœur de son enseignement, qui nous renvoie au sérieux de la vie, qui nous renvoie à la gravité, c'est vrai, des choix que l'on peut faire. Et c'est vrai qu'on pourrait évoquer ici que toutes les fois où dans l'enseignement de Jésus, il y a aussi un enseignement qui porte sur le jugement. Toujours un petit peu surpris par ce... Il dit l'amour de Dieu, mais il dit aussi le jugement. Ces jours-ci, on lit dans le cadre des Eucharisties quotidiennes, on lit un certain nombre de passages de l'Évangile où Jésus dit « Veillez, soyez prêts, tenez-vous prêts », avec parfois des phrases un petit peu dures. « Celui qui a, et bien sûr, celui à qui il a été beaucoup donné, il lui sera demandé beaucoup. Voilà. » Bon, je crois que il faut aussi entendre cela, mais il peut d'autant plus le dire et il peut d'autant plus l'enseigner que justement, dans sa manière de vivre, il incarne ce don total. C'est parce que sa vie est une vie donnée, et totalement donnée, qu'il peut aussi, bien sûr, annoncer le nom de Dieu, mais en même temps, qu'il peut aussi annoncer les exigences d'une suite qui nécessite que l'on quitte tout, que l'on se donne totalement, avec le double commandement qui est celui de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Donc, voilà, un enseignement radical. Mais ce n'est pas l'enseignement des maîtres qui disent et ne font pas. C'est l'enseignement de celui qui manifestera, jusqu'au don de sa vie. Voilà. L'importance d'une parole qui libère, mais qui libère dans la mesure aussi où on l'accepte dans toutes ses dimensions. Et puis je terminerai sur quatrième constat que je trouve extrêmement important. je ne vous le cache pas. C'est la prière. C'est la prière. Dans le cadre de ce compagnonnage qui caractérise la manière dont Jésus accompagne, forme ses disciples, je crois que ce qu'il faut noter, c'est que Jésus prie. Voilà. Il prie. Alors, la prière est sûrement comme les paraboles, comme les miracles. La prière est aussi un élément, voilà, est aussi un élément de la formation. Un élément de la formation des disciples, mais d'abord par le témoignage que Jésus donne. Quand on regarde les évangiles, on voit, surtout l'évangile de Luc, on voit que c'est vrai que l'annonce de l'évangile s'accompagne dans la vie du Christ, s'accompagne, certes, tout ce qu'on vient de se dire, mais aussi d'une vie de prière, qui semble le caractériser. Si vous regardez l'évangile de Marc, on nous dit, c'est au chapitre, au tout début de l'évangile de Marc, vous avez le chapitre 1 et 2, qui nous raconte la première journée, on dit la journée de Capharnaüm. Jésus est allé à la synagogue de Capharnaüm, il guérit là un homme qui avait la main desséchée, ensuite il va guérir la belle-mère de Pierre, puis le soir on apporte à la porte du village, on amène quantité de malades qu'il guérit, et on nous dit que la nuit, il va prier. Et il va dans un endroit désert pour prier. Et au petit matin, les apôtres se mettent à le chercher. À vrai dire, le texte dit que c'est Simon. Simon part à la recherche de Jésus. Et c'est là qu'il le trouve en prière. Ils lui disent, mais Seigneur, viens, tout le monde te cherche. Et là, Jésus répond, il faut que j'aille ailleurs. C'est pour cela que je suis sorti. Mais cette prière, on va la retrouver constamment. Et c'est Luc qui va souligner que comment, justement, à tous les moments clés de son ministère, Jésus est en prière. Il prie, il est en prière au moment du baptême, il est en prière avant de choisir les 12, avant de les choisir. Il est en prière avant de leur poser la fameuse question, « Pour vous, qui suis-je ?» Chez Luc, il est en prière. Je crois que c'est pas anodin. Puis on va le retrouver, bien sûr, en prière à Gethsémani, en prière à genoux chez Luc. Il est à genoux sur la croix. Alors, Jésus prie. Et je crois que, me semble, que pour le disciple et pour celui qui a vocation un peu à conduire au Christ, la prière est nécessaire. Parce que c'est justement dans cette intimité avec le Seigneur que l'on va recevoir de lui, que l'on va recevoir. C'est une familiarité, on va apprendre à mieux le connaître, mais c'est de lui aussi qu'on recevra les mots pour le dire. Il y a une très belle prière eucharistique qui dit, voilà, inspire-nous la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Voilà. Vous connaissez cette prière. Je crois que c'est la prière de Jésus. Mais si Jésus a reçu dans sa prière tout ce qui va faire son être d'apôtre, voilà, c'est une question. Pouvons-nous faire sans cela? En même temps, notre point important, c'est que Jésus ne se... Alors, oui, j'allais oublier. C'est dans l'évangile de Luc. La force du témoignage. Dans l'évangile de Luc, Jésus, Luc raconte, on est durant la montée de Jésus à Jérusalem. Luc dit ceci, il était un jour quelque part en prière. C'est au chapitre, je ne sais plus, c'est chapitre 11 ou 13 de Luc. Il était un jour quelque part en prière, et puis là, les disciples vont attendre qu'il ait fini de prier. Et quand il a fini de prier, il lui demande, mais apprends-nous à prier, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste, l'a enseigné à ses disciples. Et c'est là que dans l'évangile de Luc, Jésus dira, mais quand vous priez, dites. Je trouve cela très important. C'est la manière dont Jésus prie, voilà, qui va creuser le désir dans les disciples, chez les disciples. Le désir de prier comme il prie. Il semble qu'il y en a quelque chose d'important. Enseigne-nous à prier. Et Jésus, à ce moment-là, va enseigner à prier. Mais il va enseigner à prier, et lui seul peut le faire, mais nous pouvons le faire à notre manière aussi à sa suite, et il va le faire à partir de la prière qui est la sienne. Et le Notre Père, vous le savez, n'est autre que la prière du Fils, puisqu'il nous est donné, en disant le Notre Père, eh bien de participer à la prière unique qui est celle du Fils. C'est Charles de Foucault, c'est différent. Lui, ce n'est pas la prière, mais c'est un peu du même ordre. Charles de Foucault disait, il faudrait qu'à la manière dont nous aimons, voilà, ceux et celles qui nous voient vivre, puissent se dire, mais s'ils sont capables d'aimer, voilà, au nom de ce Dieu qui est le leur, combien plus ce Dieu doit-il alors aimer ? C'est ça, creuser le désir. Alors, ce n'est pas le désir à partir de choses théoriques, mais c'est le désir à partir d'une manière d'être, pourquoi pas d'une manière de prier, d'une manière d'aimer. On le voit dans l'Évangile, on le voit. Apprends-nous, enseigne-nous. Et puis Jésus prie aussi pour ses disciples. Il prie. Il y a la relation à son Père qui est unique. Dans cette relation, il reçoit l'apostolat qui est le sien. Il reçoit tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Il reçoit cette attention unique qui est la sienne à la vie des hommes. Mais en même temps, il prie aussi pour ceux qui lui sont confiés. Plusieurs exemples. On a dans l'évangile de Jean, c'est à la fin de l'évangile, au moment de quitter, au chapitre 17, au moment de quitter les apôtres, on voit Jésus prier pour les apôtres. « Tu me les avais confiés, je te les redonne. Je prie pour eux. Je prie pour eux. Voilà. » Et puis, il y a des prieres parfois qui sont plus étonnantes, qui bouleversent. Je pense dans l'évangile de Luc en particulier, à la prière de Jésus pour Pierre, au chapitre 22, verset 32. Vous savez, c'est au moment, c'est un petit peu avant le reniement. Jésus annonce que tous, de certaine manière, le renieront. Et puis, Pierre dit non. Mais là, on voit Jésus qui s'adresse à Pierre en lui disant « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour toi, voilà, pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » C'est assez étonnant. Jésus ne prie pas, dans cette prière, si vous notez bien, Jésus ne prie pas pour que Pierre ne le renie pas. Non, il ne prie pas pour ça. Jésus prie pour que, au cœur même, si je puis dire, de l'épreuve qu'il va vivre, Pierre ne doute pas de son amour. C'est ça. Pour qu'il ne doute pas de son amour. Et là, il me semble que nous retrouvons quelque chose de tout à fait fondamental et de tout à fait essentiel. C'est la liberté de la réponse. C'est la liberté du choix. C'est le mystère d'un oui ou d'un non. Voilà. C'est le mystère d'un oui qui peut s'accompagner, parfois de refus, de rejet. Mais vous regarderez bien, vous constaterez bien que dans les évangiles, c'est chaque fois un « si tu veux ». C'est « si tu veux ». Autrement dit, cette pédagogie que Jésus met en place, c'est une pédagogie qui est habitée par un immense respect de la liberté de chacun. Mais Jésus va prier. Il va prier pour que Pierre ne doute pas de lui. Voilà. Il aura pitié de la foule qui est sans berger. Voilà. Il portera dans sa prière le souci de tous ceux et celles qu'il rencontre. Mais sans jamais s'imposer. En renvoyant chacun à sa liberté. En acceptant le mystère et la grandeur d'un oui, mais qui peut être aussi un non Non, non. Mais il aura tout fait. Il aura tout fait. C'est pour cela que je terminerai sur un constat qui pourrait être étonnant, mais à partir duquel nous repartirons en début d'après-midi. Le constat, c'est que, on pourrait dire que Jésus est le pédagogue par excellence. Il est le pédagogue par excellence. Parce qu'il est précisément libre. Parce que, étant libre, il est plus que quiconque capable de conduire sur un chemin de liberté. Parce qu'il est totalement habité par ce qu'il enseigne. Parce que sa vie fait corps. À partir de la prière, à partir d'un compagnonnage. Et pourtant, si on regarde les évangiles, cette pédagogie à vue humaine se soldera par un échec. Se soldera par un échec. L'échec, si je puis dire, des foules qui, lorsqu'elles voient que le message est trop exigeant, s'en vont. Ou lorsque, on le voit dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, lorsque le message devient trop difficile, vous savez, c'est l'histoire de la multiplication des pains. Jésus vient de multiplier les pains au bord du lac. On veut faire de lui un roi, donc il s'échappe. Pas question, il s'échappe et par la mer ou par le lac, il rejoint Capharnaüm. Et là, les foules ont appris justement qu'il s'est rendu à Capharnaüm. Et à peine arrivé à Capharnaüm, elles le rejoignent. Et là, Jésus leur dit, oui, je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que hier j'ai fait ceci, et vous voudriez que je fasse de même, mais j'ai bien plus que cela à vous dire. Moi ce que j'ai à vous dire, c'est que je suis le pain de vie. Celui qui me mangera vivra pour toujours. Et à ce moment-là, évidemment, les gens commencent à s'inquiéter, à penser qu'il est sans doute devenu fou ou que c'est irraisonnable. Et tout le monde s'en va. Et c'est là qu'il y aura... Voilà, la fameuse, on sent un peu la détresse de Jésus. Il y a aussi, je ne l'ai pas dit, mais cet enseignant, ce pédagogue que Jésus, il peut être saisi lui aussi parfois par le doute, il peut être saisi lui aussi par un sentiment de je ne dis pas un défaitisme, mais quand il voit que les disciples ne comprennent pas. On le sent lui-même, quelque part touché intérieurement. Vous ne comprenez donc pas. Il leur dit plusieurs fois. Et là, on sent Jésus qui leur dit, mais vous, qu'allez-vous faire? Vous aussi, vous allez partir. Voilà. Donc, il y a une espèce de... Il y a une pauvreté, une certaine pauvreté. Parce qu'il ne s'agit pas de jouer au séducteur ou au gourou ou à celui. Mais il y a une faiblesse. Voilà, il y a la faiblesse de celui qui est là, les mains en nu, d'une certaine manière. Et puis, la réponse de Pierre, c'est de dire, mais à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Donc les foules, bien sûr, les religieux, les scribes, les pharisiens, qui voient dans le message de Jésus et qui voient dans la manière d'être de Jésus quelque chose qui va à l'encontre de ce qui peut être dangereux pour eux. Ça peut être dangereux pour eux. Et ils le tueront. Et puis il y a l'échec. L'échec aussi, on pourrait dire, à vue humaine. On y reviendra cet après-midi. L'échec à vue humaine des apôtres qui ont vécu près de 3 ans avec Jésus, qui l'ont vu vivre. Pierre le dira, nous avons mangé, nous avons vécu, nous avons bu avec lui. Et c'est ça qui fera le cœur du témoignage des premiers chrétiens. Donc qui ont vécu dans son intimité, à qui il a réservé parfois des enseignements privés, en particulier à la maison, comme dit Marc. Et pourtant, lorsqu'arrivera l'heure de l'épreuve, Ils s'aniront tous. Donc il y a aussi cela. Ils s'aniront tous, voilà, sans doute parce que le message de Jésus, comme je le disais précédemment, est un message qui renvoie chacun à sa liberté, qui est immensément respectueux de la liberté de chacun. Mais peut-être aussi parce que ce message porte en lui une dimension... radical, voilà. Qui fait qu'il échappe à cette conception humaine, qu'il est par certains côtés déraisonnable. Mais en même temps, voilà, l'échec, il y a les paroles de Jésus. Voilà. il faut que je m'en aille, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et lui vous conduira vers la vérité tout entière. Il y a tant de choses que j'aurais pu vous dire, mais je ne les vous ai pas dites parce que vous n'en êtes pas capables. Mais lorsque l'Esprit Saint viendra, lui, il fera que vous vous souviendrez de tout ce que je vous ai dit. Et il vous protégera, et il vous inspirera tout ce que vous aurez à dire. On va terminer sur ce point. L'échec, mais en même temps, la promesse, et au milieu, bien sûr, la mort de celui qui est allé jusqu'au bout de son enseignement.
Un chemin pour devenir chrétien, guidé par la pédagogie du Christ. Écoutons la suite de l'intervention du père Pierre de Berger, recteur de l'Institut catholique de Toulouse.
Quand la parole de Dieu résonne dans le cœur de quelqu'un, qu'est-ce qu'elle produit ? Qu'est-ce qu'elle produit ? Ce matin, on a vu les attitudes de Jésus. Et puis là, on va voir comment, on pourrait dire depuis toujours, hein, lorsque la parole, on pourrait dire du Verbe fait chair, voilà, elle prend corps dans une vie. Qu'est-ce que cela va produire ? Qu'est-ce que cela va produire ? Et ça, on peut le penser toujours pareil de nos propres vies, comme de la vie des enfants, des jeunes et des moins jeunes que nous côtoyons. Mais je voudrais quand même, en introduction, reprendre ce sur quoi nous avons terminé ce matin. Ce matin, j'ai terminé sur ce que j'appelais l'échec apparent de Jésus, parce qu'il y a comme un échec. Lui, le pédagogue, lui dont on peut penser qu'il avait tous les moyens, quelque part humains, intérieurs, spirituels, il n'était pas marqué par le péché comme nous sommes, il n'était pas, on aurait pu se dire, mais non, il y a eu un échec. Alors ce qui a tout changé, nous le savons, c'est la résurrection. Et au cœur de l'annonce de la foi chrétienne, il y a bien cela. Il est ressuscité. Et puis il y a eu Pentecôte avec l'Église qui naît de l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va permettre aux apôtres de relire tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, qui va leur permettre de se souvenir, mais au sens fort du terme, et qui va leur permettre de pénétrer la vérité profonde de son enseignement et de sa vie. Mais en même temps, dire cela ne doit pas nous faire évacuer ce qui est au cœur de l'annonce chrétienne, à savoir le scandale, je dis bien cela, le scandale d'un fils de Dieu qui meurt crucifié. Parce que ce qu'on aurait pu dire ce matin, on aurait pu à la limite le dire presque de n'importe quel sage, de n'importe quel témoin de Dieu, de n'importe quel prophète. Mais au cœur de notre foi chrétienne, il y a bien le fait que celui dont nous avons parlé ce matin, il est le Fils de Dieu sauveur. Sauveur. Ce n'est pas un maître de sagesse. Ce n'est pas un prophète. C'est le Fils de Dieu, fait homme. Mort sur la croix, ressuscité, sauveur de l'humanité. Alors si je dis cela, c'est que nous touchons là, il faut bien l'entendre, ce qui est au cœur de l'annonce chrétienne. Et c'est ce qui fait aussi son originalité, permettez-moi de le dire, parmi les autres religions, les autres monothéismes ou les autres sagesses. Il y a une originalité chrétienne. Et cette originalité, elle trouve son accomplissement dans la mort du Christ sur la croix. Il me semble qu'on ne peut, bien sûr, inséparable de la résurrection, bien sûr, inséparable de la vie de Jésus, mais il y a là un événement, si je puis dire, qui échappe à la raison humaine, qui échappe à la raison humaine. Et si je dis cela, c'est qu'il faut bien, il faudra bien entendre et bien comprendre que l'annonce de la foi chrétienne n'ira jamais de soi. Jamais de soi. Parce qu'elle bouscule. Elle bouscule certains schémas que l'on pourrait avoir de la toute-puissance de Dieu. Elle bouscule aussi certaines attentes que l'on pourrait avoir vis-à-vis d'un Dieu tout-puissant, répondant à nos désirs, répondant à nos attentes, avec tous les marchandages qu'il pourrait y avoir, certains paganismes aussi qu'il pourrait y avoir autour de ça, y compris dans des attitudes spirituelles. Donc il faut entendre cela. Et je voudrais simplement ici citer ce que dit Paul, ce qui nous conduit quand même au cœur de l'annonce chrétienne et au cœur de ce que j'appellerais le côté déraisonnable, déraisonnable, presque l'anti-sagesse humaine. Alors, nous sommes en quête de sagesse, nous-mêmes, nos contemporains, il y a des religions qui sont plutôt des religions de sagesse. Il me semble que le christianisme va au-delà. Et ça, il faut l'entendre. Il faut l'entendre, sinon on en resterait, oui, à un message qui est « il faut s'aimer, il faut pardonner », c'est déjà difficile, mais bon, nous allons plus loin, on va plus loin, puisque au terme de l'annonce, il n'y a pas simplement Jésus de Nazareth, il y a Jésus, fils de Dieu, fait homme, mort, crucifié pour nos péchés, ressuscité et qui est apparu. Alors ça, il faut l'entendre. Le langage de la croix, dit Paul, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et Paul ajoute, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. C'est dans la première lettre aux Corinthiens, c'est au chapitre 1, ce sont les versets 18 et suivants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien d'étonnant, d'une certaine manière, à ce que l'on puisse un jour dire « mais c'est trop grand », ou « c'est trop fou », ou « c'est trop beau ». Je pense en ce moment à Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui dans une interview disait très clairement, disait « mais moi, dans mon enfance, j'ai été séduit par le message du Christ ». Et j'ai été séduit par ce que disaient les chrétiens. Mais c'est, pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Voilà. C'est trop beau. Mais vous avez à l'inverse ceux qui vous diront c'est trop fou. C'est trop fou. Il faut l'entendre quelque part. Quand Paul va, dans les Actes des Apôtres, on nous raconte que Paul va à Athènes. Et à Athènes, il y a quantité de temples à tous les dieux du panthéon athénien. Et puis il y a même un hôtel, vous connaissez ce passage, un dieu inconnu. Et Paul dit, mais je vais le dire, je vais annoncer moi ce dieu inconnu. Et Paul commence, il parle du Christ. Et a priori tout se passe à peu près bien, jusqu'au moment où Paul évoque la résurrection du Christ. Et il comprend bien qu'il peut toujours continuer à parler, voilà. Ça n'intéresse plus personne. Donc, si j'insiste sur ce point, c'est pas pour que nous soyons défaitistes, bien au contraire. Il y a aussi ceux et celles que ce message va bouleverser, parce que eux, ils vont y percevoir quelque chose d'extrêmement nouveau. Voilà. Donc, une originalité profonde. Ce qui fait que, ce sera ma première remarque, quand le Christ, et on pourrait regarder nos propres vies, parce qu'au fond on n'est pas, quand le Verbe fait chair, intervient dans la vie d'un être humain. Et on pourrait évoquer aussi le Dieu de la Bible précédemment. C'est le même, bien sûr, puisqu'il se révèle pleinement en Jésus-Christ. C'est toujours pour susciter un acte de foi ou de non-foi. Mais où il me semble que la question de fond, c'est « Me fais-tu confiance ?» C'est ça qui est premier. Crois-tu ? Et quand on dit « crois-tu », il faut d'abord penser à un acte de confiance. Es-tu prêt à me faire confiance ? Es-tu prêt à me suivre ? Et quand on regarde bien les évangiles ou même les textes de l'Ancien Testament, cette question, elle vient au tout début. Elle ne vient pas à la fin, une fois que Dieu s'est révélé, s'est manifesté, qu'on a compris tout à fait qui il était. Non. Voilà. C'est comme ceux et celles que le Christ rencontre, ou les prophètes que Dieu appelle. C'est quand presque ils ne savent rien que la question leur vient, mais me fais-tu confiance ? Je crois que ça, c'est la question de fond. Autrement dit, au cœur de peut-être de la démarche catéchétique, mais ce qui va au-delà, il y a nécessairement cette question-là, et c'est peut-être la première des questions. Es-tu prêt à me suivre ? Voilà. Me fais-tu confiance ? Voilà. Et on voit bien combien de fois dans la Bible, lorsque ceux et celles que Dieu appelle répondent en disant « Mais nous n'en sommes pas capables, nous ne sommes pas capables, nous ne savons pas parler », la réponse est toujours « N'aie pas peur, je serai avec toi ». On est d'abord, je crois qu'on est d'abord dans une... Et toute sa vie, on va porter cette question. Toute sa vie, on va la porter. Quelles que soient ses connaissances, ce n'est pas une question de connaissance. Me fais-tu confiance ? Crois-tu en moi ? Cette question, d'ailleurs, s'accompagne parfois dans la Bible d'une autre question qui nous surprend toujours, mais qui est aussi « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pensez à Bartimée. C'est évident que Bartimée, il veut voir. Moi, je trouve toujours très, très intéressant que le Christ... Il a tout fait pour cela. Il a tout fait. Il a résisté à la foule, il a résisté à tous ceux qui voulaient l'empêcher, justement, de voir le Christ. Et à la fin, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Bien sûr que le Christ le sait. Mais la question, que veux-tu que je fasse pour toi ? En même temps, on pourrait penser à Paul, qui est renversé sur le chemin de Damas. Qui es-tu ? Je suis celui que tu persécutes. Et là, tout est donné. Et là, tout Paul va recevoir. Et ces jours-ci, on lisait justement la lettre aux Éphésiens, cet émerveillement de Paul devant la grâce de Dieu. Mais il me semble qu'il y a là quelque chose de... Alors, c'est peut-être un premier point. On n'est pas dans un savoir, même si parfois le savoir peut aussi conduire, même si la réflexion peut conduire à cela. On est d'abord dans un voilà, « Qui suis-je pour toi ? Qui suis-je pour toi ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Es-tu prêt à me suivre ? Crois-tu en moi ?» Mais on entend bien que le « crois-tu en moi » c'est voilà, « me fais-tu confiance ?» C'est ça, c'est une question de confiance. Mais d'une confiance qui fait que, on le voit bien dans les évangiles, et dans la Bible, on peut être parfois amené à tout quitter pour cela. Mais dans tous les cas, on s'en remettra à celui à qui on fait confiance. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que cet acte, cette question qui est de l'ordre de la confiance, qui est d'abord de l'ordre d'une confiance, bien sûr qui passe par une rencontre, même si on ne connaît pas et on ne connaîtra véritablement celui à qui nous faisons confiance que le jour où nous le verrons. C'est là qu'on le connaîtra. Comment nous sommes en chemin. Et ce chemin, il est fait de balbutiements. Il n'en est pas moins vrai que ce chemin, lorsqu'on regarde la Bible et lorsqu'on regarde l'Évangile, et je crois qu'il est au cœur aussi de la catéchèse, c'est un chemin qui fait que On va découvrir inséparablement. Il me semble que les deux se tiennent. On se découvre aimé de Dieu. Et le message biblique se résume en cela. Dieu est amour. Pas pour rien que Benoît XVI a intitulé sa première encyclique justement « Dieu est amour ». Vous savez qu'au même moment, frère Roger de Thésée écrivait lui aussi une lettre, qui n'a pas terminé d'ailleurs, une lettre pour les jeunes de Thésée qui aurait été lue durant le temps de Noël passé, qui portait elle aussi sur l'amour de Dieu. Moi, je me suis dit, c'est étonnant. Voilà. C'est-à-dire que ces deux hommes, sans nécessairement se l'être dit, on peut penser qu'ils ne se sont pas dit, écrivent au même moment de magnifiques méditations sur l'amour de Dieu. Parce que c'est effectivement ce que l'on va découvrir. Alors on va découvrir inséparablement qu'on est aimé de Dieu, mais en même temps qu'on est appelé à aimer comme Dieu aime. Les deux sont liés. L'enfant, le jeune, moins jeune, vous et moi, c'est ça qu'on va découvrir. Derrière le « me fais-tu confiance », il y a un « je t'aime ». Et c'est un « je t'aime » qui précède, parce que nous savons tous que l'amour de Dieu nous précède. Mais c'est un « je t'aime » de manière unique, qui en même temps s'accompagne d'un « aime comme j'aime ». Et là on retrouve, me semble-t-il, toute la dynamique, tout le dynamisme du Notre Père. Inscrit. Voilà. On se découvre fils de Dieu, fille de Dieu, mais parce que fils et fille de Dieu, frère universel. Voilà ce que la parole de Dieu va produire dans le cœur de celui qui accepte de faire confiance. Aimé de Dieu, mais appelé à aimer comme Dieu aime. Aimé de Dieu, je continue sur le deuxième point. Cela veut dire aussi promis un bonheur. Il me semble que ce que nous avons à dire plus que jamais à nos contemporains, aux enfants que nous pouvons rencontrer ou aux jeunes qui sont souvent dans des situations difficiles ou familialement ou scolairement ou à tout point, c'est au cœur du message chrétien, il y a une promesse de bonheur. Promis à un bonheur. Mais, j'ajouterai, promis à un bonheur qui n'est pas de ce monde. Cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas à être heureux ici. Quand je dis qu'il n'est pas de ce monde, ça veut dire que c'est un bonheur qui n'est pas à l'image de ce que ce monde parfois nous présente comme étant, le bonheur. Mais nous ne sommes pas simplement en attente d'un bonheur futur. Ce bonheur, il est pour aujourd'hui, il est ici. Simplement, ce bonheur, dont on pourrait dire qu'il est au cœur des béatitudes, c'est une promesse de bonheur qui va nous apprendre à nous situer autrement dans nos vies et autrement dans ce monde. Alors c'est vrai que j'évoquais ce matin le fait que le Christ, dans sa pédagogie, fait tout pour que ceux et celles qui l'accompagnent vivent une certaine liberté. En même temps, son message est un message de libération. Et c'est vrai que s'il était important de redire l'importance de la liberté, il n'en est pas moins vrai que parce que d'une certaine manière, nous sommes soucieux, au nom du Christ, de cette liberté que Dieu veut pour l'humanité, que nous allons indiquer un certain nombre de chemins ou de libérations pour ce bonheur. Et là, on pourrait revenir sur ce que le Christ, par exemple, ne cesse de dire. Promis un bonheur, mais un bonheur où on apprend à se situer autrement face au bien matériel. Et là, il faudrait retravailler un peu ce que le Christ nous dit. Ce n'est pas en mépris des richesses, mais quand le Christ dit « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Ce n'est pas le mépris des richesses. C'est simplement, on va retrouver derrière cette question « En qui mets-tu ta foi ? » Est-ce que tu mets ta foi dans les biens matériels ? Ou est-ce que tu mets ta foi en moi ? C'est toujours la même question. En qui mets-tu ta foi ? On va toujours, et on peut dire qu'elle va être déclinée constamment. De même, une autre manière de se situer face aux responsabilités, face au pouvoir, face aux honneurs. Voilà. Celui qui veut être premier, mais qui se fasse esclave. Celui qui veut être grand, qui se fasse serviteur. Voilà le chemin du bonheur. Voilà. Et la parole de Dieu, elle va creuser à travers, le verbe, et dans l'esprit, ce chemin-là. Peut-être aussi, pourquoi ne pas le dire, une manière différente de se situer face aux épreuves. Face aux épreuves, face à la maladie, face à ce que la vie peut avoir parfois d'impitoyable. Voilà. Ce n'est pas que le Christ, ce n'est pas nécessairement en termes de réponse à nos angoisses. Voilà. Mais voilà, on va apprendre à découvrir aussi cette présence aimante de Dieu qui est avec, qui accompagne, qui ne se substitue pas, mais il est là, il est avec. Manière différente aussi de se situer, mais on pourrait décliner tout cela, face à ceux qui nous aiment comme à ceux qui nous veulent du mal. Ce sont toutes les phrases de l'Évangile. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous veulent du mal. Donc, premier point, on était dans une rencontre personnelle, dans un acte de confiance qui va creuser dans la vie de celui qui accepte de se laisser saisir par Dieu une manière différente de se situer dans la vie. Dans la vie. Non pas en dehors de la vie, mais dans la vie. Affronter aussi, c'est vrai, avec nos frères humains au drame du mal. Et c'est là que parfois ça peut être le plus difficile. Voilà. Le mal est toujours là. La violence est toujours là. Et pourtant, voilà, parce qu'on accepte de se laisser saisir par l'amour de Dieu, voilà, on est témoin, comme on le peut, de la victoire du Christ, en attendant qu'il revienne, en attendant son retour. Donc, voilà, l'espérance que cela peut sous-tendre, si je puis dire.
Un chemin pour devenir chrétien, guidé par la pédagogie du Christ. Vous venez de suivre la seconde partie de l'intervention du père Pierre de Berger, recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Une intervention enregistrée le 27 octobre 2006 à Ustaritz lors de la session de rentrée des catéchistes.
Vous pourrez suivre la suite de cette intervention du père Pierre de Berger la semaine prochaine sur notre antenne, même jour, même heure.